de Paul Turchet et Bruno Point, musique au pluriel. Alors au pluriel, on peut le dire aujourd'hui car nous allons présenter le groupe des six, groupe de six musiciens français qui a été créé, on verra que c'est plus subtil que cela, en 1920. Donc ces musiciens traversent la première partie du XXe siècle et sont éminemment importants dans l'histoire musicale de la France. Nous allons porter une attention particulière, et c'est Paul qui va le faire dès le début de l'émission, sur un des membres importants du groupe des six, qui était Darius Milhaud. Je reviendrai, après la présentation de Darius Milhaud, sur l'histoire du groupe des six, mais donc elle a commencé en 1920, je dirais en écho à l'existence du groupe des cinq en Russie. Une des particularités, c'est le fait en fait que le groupe des six, c'est six Français, à l'intérieur il y a un Suisse, mais qui prétendent présenter une musique française. Le groupe des cinq Russes, eux, voulaient présenter une musique russe, je dirais principalement en opposition à la musique germanique. Nous sortons de Wagner et il y a l'ombre tutélaire de Beethoven. Donc je pense que tous ces musiciens aimaient la musique allemande, aimaient Beethoven, aimaient Wagner pour la plupart, mais voulaient se dégager de cette influence quelque peu encombrante et entendaient exprimer une particularité. Je ne pense pas que cette particularité était nationaliste au sens des querelles des nations, mais plutôt de montrer une culture typique de leur pays, en tout cas de leur histoire personnelle. Donc je passe la parole à Paul qui va nous présenter Darius Milhaud, qui est un des plus importants du groupe des six, sachant que nous avons déjà traité et fait une émission sur Francis Poulenc, qui à nos yeux est peut-être le plus grand musicien de ce groupe, donc il a déjà eu une émission qui lui a été consacrée. Je rappelle qu'il est en exergue dans notre émission, puisque c'est son concerto pour piano qui sert de jingle, c'est-à-dire d'introduction musicale. Donc Paul, eh bien, parle-nous de Darius Milhaud.
Nous nous consacrons donc à Darius Milhaud, né le 4 septembre 1892 à Marseille, issu d'une vieille famille juive de Provence, qui depuis le Moyen-Âge on appelait les Juifs du Pape, fils d'un banquier d'Aix-en-Provence, avec des parents musiciens amateurs éclairés, nous dirons, et un père qui fonde la Société musicale d'Aix-en-Provence. Bien sûr, cet enfant manifeste des dons précoces pour le violon et déjà pour la composition. Tellement précoce qu'il va rentrer en 1909 à 17 ans au Conservatoire de Paris, dont il sortira 6 ans plus tard en 1915. Pendant ces années d'apprentissage, il profitera des lumières d'éminents professeurs, Xavier Leroux en harmonie, André Goldage en contrepoint, Charles-Marie Vidor, l'immense compositeur et organiste pour la composition, et un compositeur à qui nous avons consacré une émission, Paul Ducas, pour l'orchestration. Donc Darius bénéficie d'une formation éminente et archi-complète. Il va, pendant ses années d'apprentissage, faire des rencontres multiples avec des gens que nous reverrons par la suite, grâce à Bruno, Georges Auric, les compositeurs René Guerre, des poètes, Francis James, André Gide, et puis Paul Claudel. Et il va, j'en parle tout de suite parce que ça le mérite, faire composer et constituer une œuvre absolument gigantesque. Il est extrêmement prolifique. Il n'y a pas de mode de musique qui lui échappera. Il va faire 16 opéras avec des mini-opéras parfois, de la musique de scène, 14 ballets, 12 symphonies, 5 concertos pour piano, 3 pour violon, 2 pour violoncelle, 3 pour alto, pour clarinette, pour harpe, pour hautbois, marimba, vibraphone. Il va composer 18 quatuors, ce qui est considérable, de la musique vocale, des chants, des cantates, bien sûr du piano, de l'orgue, bien qu'il ne jouera pas d'orgue, mais il sera sans doute influencé par son professeur Charles-Marie Vidor, de l'orgue, et une quantité impressionnante de musique de film. Peut-être que c'est le plus prolifique après Jean-Sébastien Bach. Écoutons dès à présent le premier mouvement de son premier concerto pour piano, joué au piano par l'immense Marguerite Long, qui sera pianiste, pédagogue, elle aura pour élève Samson François, qui sera créatrice du concerto de Ravel et qui laisse son nom à un concours éponyme. Pendant ses années de conservatoire, bien sûr, est déclaré la Première Guerre mondiale, Darius Milhaud est réformé parce qu'il est atteint d'arthrose importante, de rhumatisme. Et son amitié avec Paul Claudel va faire que Claudel, dont il a mis en musique certains écrits, est désigné ministre, comme on dit à l'époque, plénipotentiaire à Rio de Janeiro, et propose à Milhaud de le suivre comme en fait secrétaire. Voilà. Ce que fait Darius Milhaud, bien sûr, il accepte, il part avec Paul Claudel, et là il va s'imprégner de toute la musique de l'Amérique du Sud, du Brésil notamment, et il va revenir les bras et l'esprit chargés de toutes ces musiques qui vont évidemment l'inspirer complètement, puisqu'il va composer beaucoup d'airs à partir des airs brésiliens, y compris la création, j'en dirai un mot, de ce qu'on appelle le bœuf sur le toit, qui est en fait la transposition d'un air brésilien. Et il va composer ce que nous allons maintenant écouter, une œuvre qui s'appelle Scaramouche, qui est très très belle, que nous écoutons jouer pour deux pianos, parce qu'elle existe aussi pour orchestre, mais pour deux pianos, par Marcel Meyer, autre avec Marguerite Long, grande pianiste de l'époque, bien sûr, grande pédagogue, et Darius Milhaud lui-même, donc à deux pianos. Retour donc du Brésil, Darius Milhaud va rencontrer, faire des rencontres, continuer évidemment ses rencontres. On est maintenant dans les années folles, après la Première Guerre mondiale, où bien sûr on fait la fête. Multiples rencontres, et il va rencontrer des musiciens, des poètes. Je dirais que ces relations ne cessent de grandir. Et il va composer une œuvre qui va rester quelque part dans l'histoire, dans son appellation, qui s'appelle le bœuf sur le toit. Le bœuf sur le toit, c'est en fait une mélodie brésilienne. Je ne prononcerai pas en espagnol, je ne voudrais pas avoir honte. C'est la traduction en fait d'un chant qui s'appelle, étymologiquement, avec plus précision, une vache sur le toit, c'est-à-dire une sorte de tintamarre en fait au-dessus de la tête. Et le bœuf sur le toit va être un lieu de rencontre. C'est un grand restaurant. C'est une salle qui est adjacente au restaurant où là, On joue du jazz, bien sûr, énormément de jazz. Et il va rencontrer, il y a Arthur Rubinstein, à qui l'on a consacré une émission, qui va très régulièrement, lorsqu'il est à Paris, aller au Bœuf sur le Toit, dans ce restaurant et dans cette salle où l'on improvise. Et il est resté l'expression faire un bœuf, sous-entendu par rapport au Bœuf sur le Toit, où on se rencontre, et c'est l'occasion, évidemment, d'improvisation, et c'est l'improvisation, et c'est l'occasion de mélanger les musiques, de mélanger les styles, et tout cela est extrêmement créatif et assez extraordinaire. Écoutons donc l'air qui est un ballet, le Bœuf sur le Toit, qui est effectivement l'œuvre sans doute la plus connue de Francis de Darius Milhaud.
Thank you.
après la Première Guerre mondiale, une autre guerre malheureusement, la Seconde Guerre mondiale, où là, parce que Darius Milhaud a des origines juives, il doit en fait fuir la France, bien sûr, comme beaucoup, et il s'exile aux États-Unis. Et aux États-Unis, il fait la rencontre du grand chef d'orchestre français, Monteux, qui va beaucoup l'aider. Il va lui trouver en Californie un poste de chef d'orchestre, de critique musicale et surtout un poste d'enseignant. Et après la Deuxième Guerre mondiale, Darius Milhaud, bien sûr, rentre en France. Et là, il va être couronné de son œuvre et de ses mérites, puisqu'il va être non seulement chef d'orchestre, il va être critique musical dans un journal communiste, conférencier, il fera des conférences à Londres. Et il va composer énormément d'œuvres, et il va être prof au conservatoire, et il aura comme élève aux États-Unis Steve Reich et Philip Glass, qui sont les musiciens dits minimalistes, et à Paris, il aura évidemment beaucoup d'élèves à partir de 1947, et parmi ses élèves, un compositeur vraiment remarquable, à qui nous avons consacré une émission, Georges Delru, qui a fait des musiques de films inoubliables. Donc nous allons cette fois écouter un ballet qui est très poétique, La création du monde.
après cette présentation de Darius Milhaud, un peu courte parce qu'il a tellement écrit qu'il est difficile de faire un résumé en 30 minutes, eh bien je reviens sur le groupe des six. Le groupe des six, il s'agit donc de 5 Français et un Suisse. En l'occurrence, il s'agit de Darius Milhaud, Louis Duret, Germaine Taillefer, Arthur Honegger, Francis Poulenc et Jean Jauric. Ce sont tous des musiciens d'à peu près de la même génération, et c'est un critique musicien aussi, Henri Collet, qui les a baptisés ainsi. Je pense qu'ils ont été les derniers avertis, ils ont retrouvé leur nom dans le journal. En tout cas, Henri Collet voulait mettre en exergue l'existence d'une musique, je dirais, française. Il faut se resituer à l'époque, c'est très intéressant ce courant, parce que en fait, on est dans une page d'histoire de la musique, mais d'histoire tout court. En 1920, évidemment, on sort de la guerre de 14-18 avec ses atrocités, et donc d'une rivalité franco-allemande, puisqu'il s'agissait de la deuxième guerre entre nos deux pays, en tout cas 1870 et 1914, et puis qu'il y en aura une autre. Donc il y avait, je dirais, à la sortie de la guerre, on peut tout à fait l'imaginer, un certain ressentiment par rapport au massacre qui avait eu lieu. Donc on s'affichait français et on avait globalement peu de sympathie pour l'Allemagne avec laquelle on s'était battu. Mais je ne pense pas que nos musiciens, qui étaient très éclairés et qui, sans le dire, aimaient la musique allemande, Beethoven jusqu'à Wagner, Mozart avant, rejetaient la musique allemande. Mais ils voulaient, dans ce courant historique de sortie de guerre, afficher aussi une particularité française, un classicisme, une autre manière, peut-être avec moins d'emphase. Il faut reconnaître que les œuvres de Beethoven et de Wagner, que Paul et moi et ses musiciens adoraient, eh bien sont massives, sont des œuvres de grosse structure. Donc on voulait revenir à Couperin et ses pièces délicieuses, au classicisme français. Donc voilà une particularité. Ensuite, il faut faire le constat que les six musiciens dont nous parlons, en fait, ne formaient pas un groupe homogène. Et chacun a fait sa musique et on ne peut pas parler d'un style unique. Par contre, ils apportaient une nouveauté, et pour faire l'écho à ce détachement de la musique allemande, on peut aussi parler à leur égard d'un détachement envers les deux musiciens majeurs fin de 19e et début du 20e, que sont Debussy et Ravel. Et il y avait une volonté de vouloir aussi s'extraire, je dirais, des harmonies particulièrement légères, suaves, même si la musique est extrêmement puissante, de Debussy et Ravel. Ils voulaient jouer une musique plus construite, sans être massive comme les Allemands, et totalement différente de Debussy et Ravel. Je pense que dans tous les métiers, et en musique et en art, eh bien chaque période amène son évolution, et son évolution, elle s'exprime souvent différemment de la musique antérieure, bien que les influences soient importantes. Je vous propose, pour commencer cette évocation, d'écouter une œuvre de Germaine Taillefer, qui, notons-le, est la seule femme de ce groupe, mais déjà, il y avait la présence d'une femme, donc c'est très important, et celle-ci s'est imposée, c'est pas le terme, parce que ce n'était pas une femme qui s'imposait, mais les autres l'ont accueillie, et vraiment sans aucune difficulté, parce qu'ils étaient tous très amis. Thank you. Nous avons pu découvrir à quel point Germaine Taillefer était une fine musicienne. Nous y reviendrons car elle mérite que nous lui consacrions une émission. D'abord parce que c'est une grande musicienne et ensuite parce qu'elle a traversé l'histoire de l'art de son époque. Elle a connu absolument tout le monde, c'est-à-dire en musique Stravinsky, Ravel, avec qui elle était très amie et qui parlait musique avec elle. Elle a connu évidemment Cocteau, nous y reviendrons, Picasso, je dirais tous les artistes de cette époque ont été ses amis, et donc sa vie, on peut dire, est un roman. Donc prochainement, je pense que Paul et moi consacrerons une émission à Germaine Taillefer. Revenons sur le groupe d'amis. Il est flagrant que ses amis participaient à un renouveau de la musique, avaient envie de vivre après l'époque de la guerre, et donc ils ont mené, sous l'égide de Cocteau, qui a rapidement été un peu presque l'impresario de ce groupe, Cocteau qui animait la vie culturelle de son époque. Et donc ils ont vraiment animé la vie musicale, la vie poétique, le théâtre et beaucoup les fêtes dans des bars, des bistrots. C'est l'époque où tous les grands bars de Paris, les bars d'artistes ont été créés, les Deux Magots, le Bœuf sur le Toit, la Rotonde, enfin tous ces grands bars qui ont aujourd'hui cette réputation d'avoir accueilli les artistes, eh bien c'est à ce moment-là que ceux-ci les fréquentaient, alors que ce n'était pas des lieux connus ni touristiques. Autre personnage important, c'est Satie, qui lui était en réaction, je dirais presque violente, car Satie était un personnage violent, contre Wagner. Donc Satie a été le parrain de ces musiciens. Je vous propose d'écouter tout simplement Cocteau qui dépeint le groupe des six et chacun de ses participants.
Il me semble que le privilège du groupe nommé Groupe des Six fut de ne pas être un groupe esthétique, mais un groupe amical. Aucune ombre n'a jamais troublé notre entente. Cela vient de ce que cette entente relevait davantage des sentiments que des opinions. S'il existait une certaine tendance générale, ce pouvait être celle d'un sauvetage de la ligne mélodique, un peu noyée dans les chefs-d'œuvre de l'harmonie. Chacun travaillait à sa guise et nul ne devait obéir à des ukases. Six artistes s'aimaient entre eux et il s'en trouve un septième en ma personne. Voilà toute la doctrine de ce groupe. Après bien des années, il prend sa source en 1916, il se présente intact, malgré le cortège de morts qui l'escorte. Je tiens à saluer le groupe des six comme un exemple de lien libre, d'un bloc solide formé de contrastes et d'une même fidélité du cœur. Il convient en outre de saluer Eric Satie. Il n'était pas du groupe, mais sa ligne mélodique, si pure, si discrète, si noble, a toujours été une école pour nous. Nous avons tous été insupportables, et il convenait de l'être, car seul l'esprit de contradiction sauve de la routine. Et si le rôle de la jeunesse n'était pas de se cabrer contre ce qui est, même si elle l'admire, son rôle se bornerait à l'obéissance et à peupler les champs de bataille. À cette époque, n'oubliez pas de quelle époque je parle, que nous n'en sommes plus à 20 ans après, hélas, mais au vicomte de Bragelonne, à cette époque, dis-je, notre rôle de contradicteur n'était pas facile, car nous eûmes en face de nous des colosses armés de Charme, de Bussy, Ravel, et un colosse armé de foudre, Stravinsky, devait, avec le Sacre du Printemps, rendre notre petite forteresse presque intenable, car si le groupe des six était libre, sa doctrine, pleine d'un respect admiratif pour ceux qu'elle prétendait combattre, il n'en constituait pas moins un groupe, et un groupe, qu'il le veuille ou non, possède une sorte forte de tendance commune la nôtre, était de passer du tambour à la flûte et de la flûte au tambour. Les insupportables d'après 14, outre moi, qui dans le coq et l'arlequin parlaient pour eux, furent alors Auric, Poulenc, Millot, Honegger, Duret et Germaine Taillefer, car une femme, une jeune fille musicienne, fleurissait ce groupe. Si Arthur, lui, sans génie, se sentait entraîné vers un lyrisme moins tropical et plus proche de l'artisanat des cathédrales ou des usines. Le machinisme alterne dans son œuvre avec la gargouille, le rétable, la flèche et le vitrail. Vous le voyez, notre nœud résultait d'un fil, d'une ligne mélodique, dirais-je, si disparate qu'on n'en trouve la signification que dans l'amitié, et c'est elle d'abord dont cet ensemble consacre la gloire. Duret s'est retiré très vite. Grave et modeste, il ne tenait pas à la lutte musicale. Son âme, encline à aider les autres, répugnait à se trop replier sur elle-même. Georges Auric, jusqu'à l'étonnante musique de mon film Le sang d'un poète, et selon l'expression du midi, parlait pointu. Sa plume écorchait et trouait la page. Elle a maintenant trouvé son paraphe et son discours. Poulenc était et reste une source. Cette source a formé un fleuve, mais jamais sa fraîcheur d'eau courante ne laisse oublier qu'elle arrive d'une profondeur. Darius Milhaud et Arthur Honegger nous apportaient leur aide puissante, l'un et l'autre infatigables. Ils ne reculaient même malades devant aucune grosse entreprise. Darius, une badine de cornes de rhinocéros à la main, en fouettait les colonnes de graisse et les lianes de la forêt vierge. C'est lui qui rapporta du Brésil les rythmes du bœuf sur le toit. Ce titre qui semblait ridicule et subversif n'était qu'une enseigne brésilienne, qui n'est pas plus étrange que toute autre enseigne, cheval vert ou chien qui fume.
Après ce panorama dressé par Cocteau de chacun des musiciens, je vous propose que nous écoutions une œuvre de chacun d'entre eux. Nous commencerons par le moins connu, car son nom est effacé aujourd'hui, Louis Duret, très fin musicien qui a quitté, comme l'a dit Cocteau, rapidement le groupe des Six, mais néanmoins était leur ami et ils se revoyaient régulièrement. Donc Louis Duret dans un nocturne. maintenant, Georges Auric, très fin musicien, Georges Auric, qui a étudié au Conservatoire de Montpellier puis de Paris, et il a rapidement eu des prix. Il étudie notamment avec Vincent d'Indy. Il fréquente Stravinsky, Satie, puis intègre, enfin nous avons vu dans quelles circonstances, le groupe des six. Il fait partie du groupe d'amis. Il a beaucoup écouté, produit de musique de film. Il a aussi fait des ballets avec Diaghilev. Et on voit que tous ces gens, tous ces artistes de cette époque se fréquentaient, se croisaient. Et il a notamment fait des musiques de films de Cocteau, La Belle et la Bête, Orphée. Il a fait aussi Moulin Rouge de John Huston, on voit qu'il était international. Lola Montez de Max Ophuls, etc. Donc c'est vraiment un musicien qui a traversé son époque et qui a beaucoup travaillé pour le cinéma. Je vous propose de l'écouter dans un extrait de sa musique du film La Belle et la Bête de Jean Cocteau, puisque Jean Cocteau fait partie intégrante du groupe des six. En tout cas, il participe à son animation, il en est presque l'impresario. Écoutons Georges Auric, La Belle et la Bête. Nous ne parlerons donc pas, comme nous l'avons déjà dit, de Francis Poulenc, puisque nous lui avons consacré une émission entière. Le dernier musicien à évoquer est donc Arthur Honegger, qui est donc à l'origine suisse et qui a, après le conservatoire de Zurich, intégré le conservatoire de Paris et a mené une vie musicale intense, notamment en France, bien sûr. Il était partagé entre le respect du classicisme de la musique allemande, il aimait aussi beaucoup Debussy, Ravel, mais il avait une volonté farouche de présenter une musique nouvelle, tant pour lui que pour tous ses congénères de la même époque. Il prônait qu'il fallait écouter moins dans les concerts de musique de Beethoven qu'on connaissait par cœur, mais découvrir de nouveaux artistes. Je vous propose de l'écouter dans sa marche funèbre qui intègre le ballet de Jean Cocteau, Les Mariés de la Tour Eiffel. Ces Mariés de la Tour Eiffel furent un véritable scandale à l'époque. Nous en parlerons lors de l'émission sur Germaine Taillefer qui y a participé. En fait, tous les membres du groupe des six, à l'exception de Louis Duret qui les avait quittés pour aller s'installer dans le Midi, ont participé à ces Mariés de la Tour Eiffel qui méritent largement un morceau d'émission parce que ce fut à l'époque un événement et puis ça reste un ballet parfaitement iconoclaste qui est très intéressant dans la musique française et dans la vie culturelle. Donc écoutons Arthur Honegger. Vous avez écouté lors de cette émission, tout d'abord dans la partie consacrée à Darius Milhaud, le premier mouvement de son concerto, joué par Marguerite Long, et l'orchestre étant dirigé par Darius Milhaud lui-même. Ensuite, le Brasserie Lyra de son Scaramouche, joué par Marcel Meyer et Darius Milhaud, en formule de piano. Puis des extraits du Bœuf sur le toit par l'Orchestre de Paris dirigé par Alejandro de la Parra. Ensuite, Bernstein dirige l'Orchestre de France dans la création du monde. Puis nous évoquons Germaine Taillefer avec sa rêverie jouée au piano par Christina Ariano. Puis nous écoutons Jean Cocteau parler du groupe des six et des musiciens qui le composent. Puis nous écoutons Louis Duret dans son Nocturne par François Petit. Ensuite Georges Auric dans un extrait de sa musique pour le film de Jean Cocteau La Belle et la Bête. Puis un extrait des Mariés de la Tour Eiffel, en l'occurrence La Marche funèbre composée par Arthur Honegger, joué par l'Orchestre national de France lors d'une soirée en hommage à Cocteau. Paul et moi vous saluons, vous souhaitons un bon mois et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain sur Radio B pour une nouvelle émission.